affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Il faut rester dans la course, c'est la conclusion d'un rapport de l'Académie des sciences sur les réseaux de communication mobile. Les innovations se succèdent en effet à un rythme soutenu. Nous en sommes déjà à la cinquième génération de réseaux cellulaires, la 5G. Sur ce sujet, les entreprises françaises ont perdu du terrain et l'Europe doit faire face aux investissements massifs de la Chine ou des États-Unis. Alors aujourd'hui, certains prônent le désengagement par crainte d'une fuite en avant stérile. Mais peut-on abandonner au reste du monde ce secteur stratégique ? Nous allons en parler avec François Bacelli, qui a coordonné ce groupe de travail sur la 5G et les réseaux de communication mobile. François Bacelli, vous êtes membre de l'Académie des sciences et directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Bonjour.
Bonjour et merci de m'inviter.
Alors, dans votre rapport, vous mettez en avant une sorte de désenchantement. Les premiers réseaux de communication cellulaire avaient suscité l'enthousiasme dans les années 90 avec les débuts de la 2G. Et puis, la 5G suscite pour la première fois plus de réticence, plus d'inquiétude de la part du public. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez consacré, que l'Académie des sciences a consacré un groupe de travail et un rapport à ce sujet ?
En partie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus. Donc Pierre Corvol vous avait engagé dans cette direction pour des raisons qui sont naturelles pour l'Académie des sciences, c'est-à-dire d'essayer d'éclairer à la fois les agences gouvernementales, le gouvernement aussi, en donnant une vision scientifique et technique de la nature de ces réseaux. Il est clair que nous étions les premiers de la classe dans les années 90 avec la 2G, qui est véritablement une grande transformation scientifique et économique, qui avait ses sources principalement en France, et qu'au fil des générations, donc il y a une génération tous les 10 ans à peu près, cette avance scientifique et technologique s'est un petit peu estompée, on va dire, avec, pour ce qui est de la 5G, bon, après la disparition ou le rachat d'Alcatel, qui était le champion français par Nokia, donc une baisse de régime très très claire dans ce domaine et une activité qui ne va pas croissant, en tout cas en France, du point de vue académique. Alors que dans d'autres parties du monde, et pas simplement en Chine, mais en Corée par exemple, qui a un géant du domaine qui s'appelle Samsung, qui est une magnifique entreprise avec une créativité absolument magnifique. Même chose aux États-Unis, on voit dans les programmes de la NSF, 8 ou 9 priorités, vous trouverez les détails dans le rapport, pour toutes les disciplines scientifiques confondues, allant de la microbiologie à l'astrophysique. Et une de ces priorités, ce sont les réseaux de communication du futur, au sens où on l'entend dans le rapport. On a une vision très tranchée, je crois, des choses suivant les parties du monde dans lesquelles on se trouve. Et c'est ça qui nous a un petit, disons, interpellés. On a essayé avec le groupe de travail de, disons, au moins de donner l'information sur ce qui se passe dans ce domaine du point de vue technique et du point de vue scientifique et de dépasser autant que faire se peut le débat national sur ces sujets qui se trouve d'ailleurs aussi dans d'autres pays, mais en donnant un éclairage international, scientifique et sur ces questions.
Alors, pour bien baliser le terrain que vous explorez dans ce rapport, il y a de nombreux réseaux de communication mobile qui sont dans une sorte de compétition les uns avec les autres ou de complémentarité. Vous vous concentrez sur les réseaux cellulaires. Donc, aujourd'hui, nous en sommes à la 5G. Quelles sont les spécificités de ce réseau ?
Un des messages clés que nous essayons de faire passer, c'est que le débat public sur ces questions se résume grosso modo à l'augmentation du débit pour les services qui sont offerts par les opérateurs type Free ou Orange à l'utilisateur typique qui souhaite augmenter ses débits éventuellement. Mais la 5G a des ambitions très, très différentes et qui sont en partie ignorées du grand public, qui tournent autour de ce qu'on appelle l'interaction avec les verticaux, c'est-à-dire d'autres domaines d'activité, en particulier dans le domaine de la production industrielle, dans le domaine des transports, ou encore dans d'autres domaines qui sont plus diffus encore, mais tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui sont des dimensions très très importantes de ce que de ce qu'offriront à terme les réseaux cellulaires du futur. Alors, ce sont des choses très importantes parce que ça va concerner l'ensemble des secteurs industriels et des services. Vous avez toute la grande distribution en particulier et de manière plus générale la gestion des stocks. Bon, tout un ensemble de problèmes qui vont être en interaction forte avec des réseaux de communication, qui vont être contrôlés par des réseaux de communication. Et ça, c'est une phase en cours de déploiement de la 5G, mais pas encore dans tous les pays, en particulier sur la base de l'utilisation de ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Et ce débat-là n'a pas trop lieu pour l'instant. Les gens ne sont pas informés de cette dimension du problème. Ce d'autant que la 5G a de grandes ambitions dans ce domaine, mais qu'il y a en effet d'autres compétiteurs ou des projets complémentaires, on va dire. Et donc, on ne sait pas actuellement, à terme, pour toute cette dimension industrielle, on ne sait pas encore quelles sont les technologies qui vont l'emporter. La 5G a de grands avantages parce qu'elle elle va avoir une couverture universelle. Ça sera un outil utilisé par tous déjà. Mais il y a des compétiteurs très sérieux avec de très belles réussites industrielles en France, en particulier une société qui s'appelle Sigfox, qui pousse d'autres types de communications mobiles qui ne sont pas du type 5G.
Alors, vous nous faites bien comprendre que les usages professionnels de ces réseaux cellulaires sont finalement presque plus importants que les usages personnels à terme. Et ils vont nécessiter une fiabilité du réseau très, très pointue, un délai de latence, donc du temps de transmission plus faible, des débits importants. Quelles sont les avancées technologiques qui permettent d'être plus performant justement dans cette 5G?
Alors, il y a tout un ensemble. D'abord, une créativité absolument magnifique dans ce domaine, dans des disciplines scientifiques extrêmement diverses. Alors, ça part, on va dire, de la physique, en particulier l'électromagnétisme, et la focalisation. Donc, cette focalisation des ondes,
c'est un point central.
C'est un point central qui a été conçu pour limiter et réduire la dépense énergétique d'une communication avec un débit donné. Donc en focalisant les ondes électromagnétiques dans un petit secteur où il y a terme sur une sorte de tâche focale sur l'utilisateur, on a un bilan énergétique qui est bien meilleur que celui des générations précédentes avec des grands secteurs de couverture des antennes.
Ça veut dire que jusqu'à présent, on avait un angle de 120 degrés, par exemple, et que là, on le réduit considérablement.
Voilà, c'est ça. Et à terme, par tout un ensemble de techniques dont je parlerai peut-être tout à l'heure, on imagine même ce qu'on appelle une tâche focale sur l'utilisateur qu'on va suivre. Et donc, l'énergie sur la voie descendante, c'est-à-dire de l'antenne de la station de base vers l'utilisateur, va être centrée sur le terminal de l'utilisateur à mesure qu'il bouge. Et d'une certaine manière, va être beaucoup plus diffuse dans d'autres régions. Et donc, le bilan énergétique, et ça a été conçu comme ça, à service donné, est bien meilleur. Alors, ça fait appel à la fois à de la physique qui est magnifique, les travaux de Matthias Fink, qui fait partie du groupe de travail sur ce sujet, et aussi à des outils magnifiques de théorie de l'information multi-utilisateur. Alors, c'est une science très, très belle qui est née avec Claude Shannon au Bell Labs aux États-Unis et qui connaît maintenant des développements. Au départ, c'était des canaux assez particuliers, point à point. Et maintenant, il y a une théorie multi-utilisateur, une théorie de l'information multi-utilisateur. Il y a de très, très beaux résultats mathématiques qui sous-tendent cette amélioration des gains ou du bilan énergétique et en même temps l'augmentation des débits. Alors ça, c'est donc une dimension donc physique, électromagnétisme, une dimension théorie de l'information, multi-utilisateur, sur lesquels il y a un effort planétaire qui est absolument, avec des très très beaux résultats. Et puis, les autres points qui sont essentiels, ce sont l'évolution de l'architecture et en particulier des grandes transformations dans le domaine du logiciel. Alors commençons par le logiciel. Les réseaux vont pouvoir être découpés en tranches, on va dire, grâce à des applications logicielles qui vont vous permettre de définir à tel moment, à tel endroit, un réseau avec telle caractéristique qui sera étanche par rapport aux autres. Donc vous avez un événement culturel et à cet endroit, vous créez un réseau qui va couvrir telle région sur telle tranche horaire avec des caractéristiques qui lui sont propres. Vous pouvez avoir donc des garanties de débit, de latence, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi de partage de la ressource. Les chiffres qu'on vous donne en débit, ce sont des chiffres pic, n'est-ce pas ? C'est le débit pic. Quand on est dans un réseau réel, on partage ce débit pic entre un certain nombre d'utilisateurs qui sont dans la cellule ou dans une région. Et donc, si on ne contrôle pas ça, les débits effectifs sont beaucoup plus faibles. Sauf si on met en place un réseau virtuel, étanche à l'utilisateur, et donc avec des propriétés, en effet, qui sont garanties, on va voir dans quel sens, à la fois en débit pic, en partage de ce débit pic. Si on maîtrise le nombre d'utilisateurs, on va avoir une garantie effective, et puis en latence.
Ça, c'est très important pour l'usage professionnel.
C'est très important et de manière plus générale, disons, ça donne des dimensions tout à fait nouvelles à l'organisation et à l'utilisation même commerciale des réseaux, dans la mesure où on va pouvoir vendre un service et le réorganiser de manière logicielle, de manière extrêmement souple. Et donc ça, c'est une dimension très importante. Alors, tout ceci se fait avec des grands changements d'architecture. Alors, moi, j'aime beaucoup l'architecture des ordinateurs et des réseaux. Ce sont des domaines très intéressants sur lesquels j'ai personnellement beaucoup travaillé. Et là, il y a des changements majeurs. En particulier, un point essentiel est le déplacement de ce qu'on appelle l'intelligence en périphérie de réseau. Avant, on avait ce qu'on appelle le cloud, en franglais, avec de l'intelligence essentiellement en cœur de réseau. On va chercher des informations dans le cœur de réseau et puis on redescend vers l'utilisateur. Ce qu'on veut maintenant, grâce à ces délais très courts ou latences très courtes, c'est aussi un anglicisme, c'est pouvoir offrir des services de type réalité virtuelle en déplaçant les données et l'intelligence en périphérie du réseau pour pouvoir bénéficier d'un délai extrêmement court qui permet effectivement, quand on tombe à l'ordre de la milliseconde, d'offrir des services temps réel qui permettent tout un ensemble de pratiques qui n'existent pas actuellement. On en parle beaucoup dans le rapport, avec un certain enthousiasme, une certaine crainte aussi. Un nouvel univers de possibilités économiques, de services en périphérie de réseau. Vous allez pouvoir suivre l'utilisateur, communiquer avec lui avec des latences très très courtes et utiliser des outils d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle pour offrir des choses dont on n'a pas idée actuellement. Il faut faire très attention. Le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, qui est quand même la direction dans laquelle on va, en France en particulier, de rejeter l'ensemble pour des raisons qui sont, disons, alors qu'on n'a pas la connaissance des enjeux dans ces domaines, il faut faire très attention. On pourrait reprocher de ne pas avoir investi ce qu'il fallait dans le futur. Donc c'est très subtil. Une des questions clés qui est apparue, c'est celle de ce qu'on appelle les externalités positives. Alors, moi, je ne suis pas économiste, mais...
C'est-à-dire
Alors, voilà, vous installez un réseau 5G, et à juste titre, les gens vous interrogent, vous déployez des équipements, il faut des nouveaux téléphones, donc il y a une empreinte carbone qui n'est pas du tout négligeable. On a essayé de quantifier l'empreinte carbone, et puis il va y avoir une dépense énergétique pour le maintien de ce réseau, surtout qu'il vient en addition, en complément du réseau 4G, 3G et 2G qui continue d'exister. Et donc c'est quelque chose qui est répréhensible, ne serait-ce qu'à ce titre. Alors, les experts, certains du domaine, font la remarque suivante. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas voir ce réseau et le limiter à l'augmentation du débit pour les jeunes gens qui vont s'intéresser aux jeux électroniques, n'est-ce pas ? Il y a toute cette dimension industrielle. Et de mettre de l'intelligence dans les transports, dans la production industrielle et dans les services, ça mène à des gains dans d'autres domaines en termes de pollution et d'énergie. Et donc, c'est ça que les économistes appellent les externalités positives. Alors, on a commencé à traiter de ces questions. Et puis, on a vu que ce débat était assez faussé, qu'en fonction de, on va dire, d'opinions personnelles ou politiques ou autres, beaucoup d'individus avaient de ces externalités positives et de cet équilibre entre le coût énergétique et les gains qu'on peut attendre, des opinions un peu toutes faites. On a essayé de... Bon, certains d'entre nous connaissent bien ces sujets, de regarder un petit peu ce qui s'était fait dans la littérature, des rapports qui étaient publics. Force est de constater que non seulement certains de ces rapports n'ont pas de base scientifique sérieuse, et qu'en plus, c'est très difficile en France, par exemple, actuellement, de se faire une opinion indépendante sur des questions de ce type, qui sont très interdisciplinaires. Et donc, nous n'avons pas, ou très très peu actuellement, de capacité académique simplement de répondre à ces questions. Et ça nous a amené à la conclusion qu'il fallait, si on voulait être, comment dire...
pertinent.
Pertinent, d'être en mesure d'avoir des structures académiques qui, indépendantes des industriels, il faut qu'ils soient en mesure de donner des réponses assez définitives à ces questions. Et on en est très loin.
Alors, dans ce rapport, nous sentons que vraiment vous prenez grand soin de répondre aux questions du public, aux inquiétudes des uns et des autres. Nous avons parlé des questions liées à l'environnement, à l'impact environnemental. Il y a aussi les questions liées à la santé. Et peut-être qu'elles se posent de façon plus aiguë sur les ondes millimétriques pour lesquelles nous avons moins de recul que les autres.
Oui. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que c'est un sujet sur lequel nous n'avions pas de compétences dans le groupe de travail. Nous avons un certain nombre de personnes, de scientifiques du domaine, d'industriels, et donc on s'est forgé une sorte d'opinion. Il y a des travaux assez sérieux en France sur ces sujets. Et donc, pour les ondes, on va dire classiques, en dessous de autour de 3,5 GHz, on a, d'une certaine manière, beaucoup de recul sur ces questions, parce que, vous voyez, donc, vous parliez du GSM, c'est les années 90, donc, vous voyez, on a vraiment beaucoup de recul. Les conclusions,
une sorte de consensus sur le sujet.
Oui, sur le sujet, et voilà. Mais par contre, pour les ondes millimétriques, qui ne sont pas développées en France actuellement, il n'y a pas ce recul. Donc le véritable problème des communications actuellement, c'est que vous avez ces ondes à grande portée, mettons en dessous de 6 GHz, qui sont très saturées. Et donc d'où l'idée d'utiliser d'autres bandes de fréquences, en particulier des fréquences autour de 26 GHz, qui sont à portée beaucoup plus courte, mais qui sont beaucoup plus sensibles à l'obstruction par divers types d'obstacles ou autres. Il y a donc de nouvelles architectures qui sont en cours de déploiement, qui sont déployées dans certains pays. La Corée est très en avance sur les ondes millimétriques, par exemple, grâce à Samsung, et qui seront à la fois utilisées pour, par exemple, les réseaux véhiculaires, de certains types de réseaux industriels, mais aussi pour les communications personnelles. Alors, on n'a pas ce recul. Et ce qu'on sait, c'est que les ondes sont absorbées par la peau, à vrai dire. Disons, on n'a pas de compréhension globale et en tout cas fondée sur 30 ans d'études épidémiologiques de l'effet qu'auront ces ondes. Et donc là, il y a un travail véritablement important à faire. Mais je le répète, on prend des... On prend ça avec, nous n'avions pas dans le groupe de travail, donc nous avons lu beaucoup de choses, interrogé des experts du domaine en France, mais il est clair qu'il va falloir de nouveau un effort académique, ce sont des questions quand même très importantes, un effort académique sur ces questions-là.
Et sur les questions de cybersécurité, le rapport dit que finalement, elles sont parfois pas appréciées à leur juste valeur, peut-être un peu minimisées, alors que les risques sont réels.
On a essayé de comprendre dans quelle mesure cette nouvelle génération de réseaux était plus sûre ou moins sûre que les précédentes. Il est clair que si ces réseaux, et ces réseaux ou d'autres, vont jouer le rôle qu'on a dit tout à l'heure dans le tissu industriel et vont donc être en interaction avec l'ensemble de toute la production, l'ensemble de tous les services, l'ensemble de tous les transports et l'ensemble des systèmes critiques. Hein, les infrastructures critiques vont être contrôlées par des ou interactions fortes avec des réseaux de communication. Il n'est pas question d'avoir des trous de sécurité. D'une certaine manière, c'est un peu le talon d'Achille de l'informatique de manière générale. C'est la capacité qu'ont des personnes malveillantes d'attaquer, maintenant on le voit, des hôpitaux, des agences gouvernementales. Bon, donc il y a là un sujet très très sérieux. Il y a des améliorations de sécurité, mais en même temps, le fait que l'intelligence se déplace à la périphérie fait apparaître de nouvelles vulnérabilités. Et donc, de nouveau, cette évolution est inéluctable par certains côtés, elle est déjà engagée, et ce qu'il faut, c'est la maîtriser scientifiquement. Donc nous avons beaucoup discuté avec l'ANSSI, qui s'occupe de ces questions de sécurité informatique en particulier. Ceci aussi mène à des questions de certification des équipements. Il est très important que, en particulier pour ce qui va avoir trait à notre production industrielle ou l'interface avec des infrastructures critiques, qu'on ait des équipements dont on maîtrise la conception, la nature. Et donc là, il y a tout un ensemble de points qui vont au-delà de la sécurité au sens où on l'entend, qui est véritablement la maîtrise, disons, de bout en bout, de la conception et de la nature de ces systèmes. Alors en France, on a de belles institutions. L'ANSSI joue un rôle clé là-dedans en certifiant les équipements, les stations de base, etc. Donc c'est une dimension très importante du problème et qui est très, très bien prise en compte en France.
Cela nous amène à des questions plus presque géopolitiques par rapport à l'Europe qui doit tendre à une forme d'indépendance pour maîtriser sa chaîne de la conception à l'utilisation. Aujourd'hui, comment se situe l'Europe par rapport à tout ça ?
Alors, ces questions de, on appelle ça souveraineté, ont plusieurs facettes. La première, c'est celle des matériels. Une autre concerne tous les aspects ayant trait au logiciel. Et puis ensuite, il y a la question des données. Hein. Alors, dans le domaine des circuits, c'est maintenant une autorité publique. C'est pas qu'on soit plus dans les premiers de la classe, c'est qu'on est complètement absent. Oui. Hein. Pour ce qui est de la gravure fine, donc qui est à la base de tous les circuits qui sont utilisés dans les téléphones portables, l'Europe n'est plus en mesure de fabriquer des téléphones portables. Bon, donc ça, c'est un problème très sérieux qui commence à être pris en compte. Il y a une prise de conscience à la Commission européenne et peut-être en France aussi de cette grande faiblesse. Alors pour ce qui est des équipements, les stations de base, les cœurs de réseau, les réseaux de collecte dont j'ai parlé tout à l'heure, la situation est meilleure et on n'est pas du tout dans la situation de dépendance qu'on imagine. On a deux grands industriels européens qui sont Nokia et Ericsson. Et donc Alcatel existe toujours d'une certaine manière au titre de Nokia. Il y a des très très bons laboratoires qui sont sous le nom de Nokia, mais qui étaient autrefois des laboratoires sous le nom d'Alcatel. Donc on a deux champions européens, même si la concurrence internationale n'est pas du tout favorable à ces deux groupes actuellement. Ensuite, pour ce qui est des services, on va dire, des plateformes et du logiciel, là, il se passe aussi énormément de choses et nous ne sommes pas en très, très bonne position. Les enjeux vont surtout être de savoir ce qui va se passer pour cette informatique et ces services en périphérie de réseau. Mais il y a tout un effort aussi, que vous avez peut-être vu dans le rapport, sur... ce qu'on appelle ORAN, qui est une initiative qui tend à séparer en divers niveaux ce qui est maintenant une structure unique de réseau. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails parce que c'est assez technique, mais il y a beaucoup d'incertitudes de savoir comment les choses vont se passer du point de vue du point de vue du logiciel. Oui, sur le logiciel, c'est quand même quelque chose de très très important de bien concevoir que c'est quand même là que vont se passer sur le développement de nouvelles applications, et donc la valeur ajoutée et les modèles économiques vont surtout être dans ce domaine. Donc c'est assez complexe là aussi, et il y a de très grands enjeux dans ces questions qu'on ne se retrouve pas dans une situation GAFAM dans le futur. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de réflexions à avoir et à savoir comment à la fois développer de nouveau le tissu académique et le tissu industriel dans les directions adéquates. Et puis pour les données, alors là, c'est véritablement une question clé qui a beaucoup intéressé l'Académie des sciences morales et politiques, c'est de comprendre comment ces nouvelles générations de réseaux peuvent ou non créer un nouveau type de surveillance, soit étatique, soit commercial, dont on voit déjà, comme vous le savez, Google, c'est plus sur vous ou moi que, que la plupart des personnes, simplement en regardant l'utilisation qui est faite des navigateurs, n'est-ce pas ? Alors, imaginez maintenant que cette informatique en périphérie de réseau se développe, que vous ayez en plus une géolocalisation et une vision très très détaillé de l'activité de chaque individu, vous imaginez immédiatement comment peuvent se développer à la fois une collecte de données, si c'est l'intérêt commercial, ou d'autres types d'informations, si on n'y prend pas garde. Donc là, il y a des interrogations véritablement essentielles et qui montrent bien que le fait de rejeter tout ceci en bloc sans avoir la connaissance de la nature de ces questions, pourrait être reproché aux scientifiques ou aux décideurs ultérieurement. Il y a de véritables dangers pour véritablement des questions qui ont trait aux libertés individuelles. Et donc, alors ces questions sont du ressort de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de Daniel Handler, avec lequel on a beaucoup travaillé sur ces questions. Il faut faire percevoir l'importance, et ce n'est pas trop fort de dire, pour les libertés individuelles de ces domaines à terme. Et donc, voilà, on a cette conviction, en tout cas.
Qu'il faut rester présent pour justement les garantir.
Oui, c'est les garantir et faire en sorte que l'Europe a de grands atouts avec des législations qui protègent l'individu plus que sur d'autres continents. Mais si tous les équipements à terme, si on n'avait plus la maîtrise des équipements et la maîtrise du logiciel, n'est-ce pas, c'est très bien de légiférer, mais c'est...
L'efficacité sera moindre.
L'efficacité serait moindre. Et donc, d'où le leitmotiv du rapport qui est attention, il faut réfléchir à ces questions et ne pas avoir d'idées toutes faites.
Peut-être pour finir, pourriez-vous nous parler de la 6G qui est déjà en cours de développement ? Quelles sont les grandes innovations qu'elle va proposer ? Je pense notamment aux murs dans les zones un peu complexes comme les villes, les parois qui pourraient retransmettre les ondes.
Oui. Alors c'est ce qu'on appelle les surfaces intelligentes, qui est un très très beau sujet. Alors, il y a l'exploration du spectre électromagnétique à d'autres bandes de fréquences. Donc, il y a une grande activité autour du terahertz qui se passe principalement en Asie. Le point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si on se limite aux bandes de fréquences, de l'ordre du gigahertz jusqu'à entre 1 et 5 gigahertz ou 6, qui sont cette partie du spectre est très, très utilisée. Il est extrêmement difficile de faire d'y ajouter, d'y trouver de nouvelles ressources. Hein. D'où l'idée clé de la partie future de la 5G et puis de la 6G, qui est d'explorer, avec des architectures et une algorithmie complètement nouvelle, des bandes de fréquences qui sont de l'ordre c'est 26 GHz pour la 5G, mais autour de 30, on va dire, et puis du terahertz. ultérieurement. Donc il y a toute une compréhension d'utiliser de manière beaucoup plus massive les ressources du spectre électromagnétique, de manière, toutes les bandes de fréquences, de manière à utiliser au mieux, avec des schémas architecturaux complètement différents, puisque les propriétés de propagation sont complètement différentes. Voilà. Donc ça, c'est une dimension très importante. Il y a des dimensions pour la 6G qui émergent aussi. Donc c'est l'utilisation de divers types de capteurs qui vont s'ajouter, se complémenter les informations données par les communications. Donc, par exemple, dans les communications véhiculaires, vous allez avoir les communications mobiles, mais vous allez avoir aussi une fusion de ces données avec des données radar, par exemple, ou d'autres types de capteurs qui vont permettre, à terme, d'avoir une augmentation de la sécurité par une vision collective que fabrique l'ensemble des véhicules, des obstacles, des piétons. Donc ce sont des méthodes de fusion de capteurs qui vont être agrégées et mises en commun dans un environnement local donné par les réseaux de communication. Voilà, donc il y a cette dimension-là. Et puis, la dimension que vous indiquiez, les surfaces intelligentes. Pour expliquer véritablement la nature de ces innovations sur lesquelles nous avons très belle activité en France, il faut comprendre, il faut déjà avoir une compréhension de ce dont j'ai parlé au départ, qui est la théorie de l'information multi-utilisateur. Cette théorie de l'information multi-utilisateur donne ce qu'on appelle un débit au sens de Shannon, un débit qu'on peut atteindre, des limites de capacité, qui sont en fonction de la nature du milieu. Si le milieu est très riche en réflexions multiples, alors on peut atteindre un certain type de capacité. Si le milieu est plus pauvre, on ne peut pas l'atteindre, cette capacité, et on a une dégradation des... Donc, ce qu'on appelle la diversité du canal, d'une certaine manière. Alors, la surface intelligente est quelque chose qui permet d'augmenter artificiellement cette diversité. Donc, vous équipez les murs de ces surfaces et avec des méthodes, je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait très technique, vous augmentez cette diversité et vous obtenez un débit qui est bien meilleur que celui sans la surface intelligente. Alors c'est donc une direction qui est, pour certains types de milieux, extrêmement prometteuse et qui permettra, dans les générations futures, d'avoir, dans des milieux qui sont assez pauvres au point de vue diversité, une augmentation très très significative des propriétés des canaux.
Eh bien, un grand merci François Bacelli. Je rappelle que vous avez coordonné le groupe de travail de l'Académie des sciences sur la 5G et les réseaux de communication mobile. Vous avez sorti un rapport sur ce sujet cet été. Il est disponible sur le site internet de l'Académie des sciences. Tout le monde peut se le procurer gratuitement, évidemment. Et nous l'avons compris, c'est un rapport qui est à la fois tout en nuances, mais qui plaide aussi résolument pour le fait de prendre une part active dans le déploiement et le développement de toutes ces technologies. Un grand merci. Et à bientôt.
Merci de votre invitation une fois de plus.